Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort nous demande de nous vider du monde. Nos rapports avec le monde sont très difficiles à juger. Il est très, très difficile aujourd'hui de bien se placer par rapport au monde. Parce que, d'abord, c'est une question de cas particulier, très souvent, bien que ça dépende de principes. Et puis, parce que le monde est tellement mauvais, on se demande comment on peut avoir sa place dans le monde. Puis Saint Louis-Marie Grignon de Montfort nous demande de le fuir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que le fuir ? Nous allons prendre exemple aujourd'hui sur Jésus-Christ et sur les mystères joyeux. Il n'y a pas de meilleure réponse à donner quant à notre attitude dans le monde et par rapport au monde que celle de Jésus et de ceux qui suivent Jésus, notamment la Sainte Famille. Or, que constatons-nous ? Nous constatons dans le premier mystère joyeux, l'Annonciation, que le Verbe éternel, le Fils de Dieu, vient dans ce monde. Or, s'il y en a un qui n'aurait pas dû être à sa place dans le monde, c'est bien le Verbe éternel de Dieu qui a toute sa plénitude, tout son bonheur infini au sein de la Sainte Trinité. Or, il vient dans le monde. Donc c'est la première leçon à tirer de cela. Le chrétien ne fuit pas le monde. Je sais bien, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort dit le contraire, mais je vais vous expliquer. Le chrétien ne fuit pas le monde, au contraire, il vit dans ce monde. Mais, première constatation, notre Seigneur vient dans ce monde, non pas à la manière de Vatican II pour bénir le monde, c'est Gaudium et Spes de Vatican II, il vient au contraire pour l'arracher aux démons. Il vient au contraire pour le libérer, le monde, de sa condition charnelle, de sa condition terrestre, et unir toutes les âmes à Dieu le Père et à lui, à la Sainte Trinité. Quel est le moyen qu'il va prendre pour cela? Il va prendre le moyen de la croix, c'est-à-dire de la consécration, vivre en union avec Dieu, et on parvient à cette union avec Dieu par la vertu. Notre Seigneur vit saintement dans le monde. Il vit dans le monde, alors faisons bien attention, parce que les libéraux auront tendance à retenir simplement que notre Seigneur est venu dans le monde. Mais ça, je vous l'ai déjà dit, c'est Vatican II. À l'inverse, beaucoup pourraient croire qu'il faut fuir même physiquement le monde. Le monde est mauvais, on n'a aucun contact à avoir avec lui. C'est hélas la position de certains traditionnalistes. Je dis hélas parce que, encore s'ils allaient au fin fond du désert, ils seraient peut-être plus proches de Dieu, mais enfin, ils prétendent fuir le monde, mais ils sont bien dedans. Et puis finalement, comme ils ne sont pas sur leur garde, ils se laissent beaucoup pénétrer par le monde, parce qu'ils ne sont pas sur leur garde, justement. Donc notre Seigneur vient dans le monde, le milieu de vie du chrétien, c'est le monde, mais le but poursuivi n'est pas le monde. Le but poursuivi, c'est la Sainte Trinité et Dieu, le ciel. Et les moyens nous le verrons avec les mystères douloureux, c'est la croix, et en tout cas, dans les mystères joyeux, c'est la vertu. Que fait la Sainte Vierge dès qu'elle est la mère du Fils de Dieu? C'est la visitation. Autrement dit, la Sainte Vierge a très bien compris quelle est la démarche de Dieu, si on peut dire les choses ainsi. Ce que Dieu le fait, ce que son Fils, le Verbe éternel, fait en venant dans ce monde. Il vient proclamer la foi, la vie chrétienne, la grâce, la gloire, et en même temps, il attire les hommes de manière à les ramener à Dieu, et quand il les aura ramenés à Dieu, ce monde-là n'aura plus d'intérêt, ça sera la fin du monde, parce que le monde n'est qu'un escabeau. C'est dans le premier psaume des Vêpres du dimanche. Le monde n'est qu'un escabeau. Que fait la très sainte Vierge? Elle a compris le Sacré-Cœur de Jésus, et dès qu'elle est la mère de Dieu, elle va, puisqu'elle sait que sa cousine est la mère de saint Jean-Baptiste, que l'ange le lui a dit et qu'elle a compris parce que elle connaît parfaitement les Écritures, donc elle sait très bien que un ange marchera devant toi. Elle sait très bien qu'un grand prophète, saint Jean-Baptiste, précédera Jésus-Christ, elle l'annoncera. Donc tout ça, elle l'a compris. Que fait-elle? Elle va annoncer que le salut a déjà commencé. Elle va annoncer la grandeur des œuvres de Dieu. Elle chante le Magnificat qui exalte Dieu, qui n'exalte pas le monde, qui exalte Dieu. Au contraire, dans le Magnificat, elle rabaisse le monde. Il a renvoyé les riches les mains vides. Et les orgueilleux, il les rabaisse. Au contraire, il exalte les humbles. Et il comble de bien les affamés. Elle chante dès le début la puissance de la grâce. C'est-à-dire que pour sortir de ce monde, nous nous appuyons sur Jésus-Christ. Nous suivons Jésus-Christ. Je ne vais pas vous refaire les sermons que j'ai faits sur Jésus-Christ. Mais c'est le moment de les reprendre et de les mettre en œuvre. Elle proclame la puissance de la grâce, la puissance de Dieu. Il a fait pour moi des grandes choses, saint son nom. Il a regardé la bassesse de sa servante, c'est-à-dire que nous devons compter sur lui et non pas sur nous. Il proclame à Sainte Élisabeth, elle proclame à Sainte Élisabeth, l'annonce du salut, le début du salut. On voit là que le premier mouvement de celle qui a le mieux compris Jésus-Christ, c'est un mouvement qui prolonge l'incarnation, c'est un mouvement de communication de la grâce, c'est un mouvement d'apostolat. Un petit mot, si vous le voulez bien, sur l'apostolat. La dernière fois, je vous ai encore une fois parlé de l'apostolat auprès des musulmans. J'aurais pu parler d'un autre apostolat. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que nous devons transmettre. Les parents doivent transmettre dans la famille. Le premier apostolat, c'est celui des parents. Seulement, l'apostolat des parents ne peut pas se comprendre si on n'a pas compris ce qu'est l'apostolat d'un adulte. Parce que les parents forment les enfants à devenir des adultes. Or, qu'est-ce qu'un adulte? C'est celui qui donne quelque chose au monde, à ce monde perdu dans le péché et sous la puissance de Satan, et qui lui donne Dieu. Alors qu'il le donne par sa prière, par son exemple, par ses sacrifices, qu'il le donne par son action, il y a beaucoup de sortes d'actions, là n'est pas la question. Justement, nous verrons, et c'est la grande force de la consécration à la très sainte Vierge, que nous n'avons pas tellement à nous poser la question tout de suite de savoir ce que nous avons à faire dans le monde pour y faire régner Jésus-Christ. Du moment que nous nous consacrons à la Sainte Vierge, tout naturellement, avec un effort et avec de la réflexion bien sûr, mais sans difficulté, nous verrons ce que la Sainte Vierge attend de nous et nous verrons comment communiquer. Comment communiquer Dieu? Comment communiquer l'amour de Marie? Comment communiquer l'amour de Dieu par l'amour de Marie? nous avons rencontré au marché une bouchère de boucherie chevaline qui visite les malades dans les hôpitaux et récite le chapelet avec eux. Tout naturellement, tout simplement, et pourquoi cela? Parce que tous les ans, elle va à Lourdes, elle y allait depuis le début de son mariage avec son mari, le voyage de noces était à Lourdes, et depuis, le mari est mort maintenant, mais tous les ans, elle va à Lourdes. La Sainte Vierge est évidemment la guide. Je vous disais donc, le mystère de la visitation, deuxième mystère joyeux, est un mystère très, très stimulant. Et j'ai encore dans l'oreille une prédication de Mgr Lefebvre. Marie se hâte, vite, vite, vite elle se hâte, vite, vite. On sentait que Mgr était pris. Vite, vite, vite. Qu'est-ce qui était tellement important pour qu'elle se hâte à ce point? Eh bien, c'est ce que je viens de vous dire. Elle communique notre Seigneur Jésus-Christ. Dès que notre Seigneur entre dans le monde, troisième mystère joyeux, c'est immédiatement l'hostilité du monde contre Dieu. Cela se voit dans tous les mystères joyeux. Cela se voit tout d'abord à la naissance de Jésus. Il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtellerie. Tout simplement, le monde vit dans son monde, qui est un monde mercantile, qui est un monde, on profite de ce qu'il y a beaucoup de personnes pour le recensement, et on loue toutes les chambres, et pas question d'accepter à l'hôtellerie une femme qui attend un enfant, qui est sur le point de le mettre au monde, et qui risque de faire des problèmes. Cela ne gêne pas Saint Joseph et la Sainte Vierge. On pourrait avoir une interprétation un petit peu différente. Saint Joseph descend la Grand Rue, dans tous les villages du monde, la rue principale s'appelle la Grand Rue. Il arrive à l'hôtel, au lit, on dort, et peu avant d'y arriver, la porte du bar s'ouvre, la fumée de cigarette sort, on entend la télévision qui braille, sur la Coupe du Monde, France-Israël. On entend hélas quelques jurons, et quoi que notre Seigneur vient dans le monde, c'est quand même pas dans ce monde-là qu'il va venir, il va venir au milieu des pécheurs, mais pas comme ça. Alors Saint Joseph, c'est mon interprétation, hein. Saint Joseph regarde la Sainte Vierge regarde Saint Joseph, puis ils se disent l'un à l'autre, non, c'est quand même pas la place du Fils de Dieu pour qu'il vienne naître. Ce n'est pas grave, nous allons trouver une grotte. Et finalement, la grotte de Bethléem est d'une certaine manière encore plus le monde, en ce sens que c'est la pauvreté, c'est l'humilité, c'est le recueillement, c'est une certaine solitude, et les gens intrigués vont rendre visite à notre Seigneur Jésus-Christ dans la grotte. Il y a dans les mystères joyeux une grande leçon. Si Dieu le Père nous avait consultés, imaginez, voilà, je vais faire venir mon fils dans le monde, le monde va mal, je vais faire venir mon fils. Pourrais-tu m'organiser la descente de mon fils? La première chose que vous auriez faite, vous auriez dit à Dieu le Père, envoyez votre fils dans le monde, enfin vous n'y songez pas. Non, non, attirez le monde à vous, oui, bien sûr, mais n'envoyez pas votre fils dedans. Alors Dieu vous aurait répondu à ce moment-là, tu n'as rien compris. Comme Jésus-Christ à Saint-Pierre, arrière, Satan, tu n'as rien compris. Donc on suppose que vous avez accepté, bien. Alors vous lui dites, ah Dieu le Père, vous faites venir votre fils. Oui, alors il faut faire, bien entendu, une conférence de presse, convoquer toutes les télévisions. Non, non, dit Dieu le Père, ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, il viendra une époque où la télévision n'existe pas. Quand les gens s'occuperont des choses du monde, qu'ils s'occuperont plus de moi, de Dieu, ils inventeront la télévision. Mais comme disait Mgr Lefebvre, notre télévision, c'est le tabernacle. Quand on s'occupe de Dieu, on n'a pas besoin de télévision. On a à peine besoin d'Internet. Oui, je sais, je mets mon sermon sur Internet. On profite du mal pour essayer de ramener quelques âmes, mais s'il n'y avait pas Internet, il n'y aurait pas mes sermons, mais il n'y aurait pas besoin de les y mettre, parce qu'il n'y aurait pas tant de problèmes. Le clergé ne serait pas tombé si bas. L'Église ne serait pas tombée si bas si elle n'avait pas eu l'amour du monde. C'est parce qu'elle a eu l'amour du monde, c'est parce qu'elle a cru aux moyens d'ici-bas. Elle a cru aux moyens humains. Et justement, c'est la grande leçon de Dieu, de nous montrer que les moyens humains, plus ils sont riches d'hommes, plus ils sont pauvres de Dieu, et moins ils sont efficaces. Alors donc, vous auriez proposé une retransmission en Mondiovision, et Dieu le Père vous aurait dit avec beaucoup de bonté, parce que nous n'y connaissons rien, nous encore, justement, son fils n'est pas encore venu, alors nous ne comprenons pas ces choses-là. C'est après, au moment de la Pentecôte, qu'il est normal de comprendre ces choses-là. Alors vous diriez, mais enfin au moins un grand palais, dans une grande ville, à Jérusalem. Non, non, ce ne sera pas Jérusalem, ce sera Bethléem. Or Bethléem, vous savez, c'est la cité des Ploucs. Que peut-il sortir de bon de Bethléem? Bethléem? Vous choisissez Bethléem, Dieu le Père? Oh, j'y comprends plus rien. Et au moins, alors, vous allez convoquer les rois. Oui, tout le monde va être convoqué, mais les rois ne sont pas encore prêts à venir. Non, je vais faire venir des bergers. Oh. Il y aura des rois mages, trois rois mages, parce qu'ils auront la foi, ceux-là. Ils verront une étoile, ils comprendront. Le Saint-Esprit leur parlera, ils suivront le Saint-Esprit. Mais les autres rois, non. Alors vous allez, après cela, ce fils de Dieu, que vous allez faire naître dans une crèche, il va être brillant, lumineux, il va conquérir le monde. Non, non. Hérode va chercher à le mettre à mort. Très tôt, il va falloir fuir en Égypte. Il y aura bien d'abord la circoncision, la présentation de Jésus au temple. Et d'ailleurs, cette présentation de Jésus au temple, le quatrième mystère joyeux, c'est deux choses. L'annonce de la passion et l'enseignement du vieillard Siméon. Celui-ci sera un signe de contradiction, et à cause de lui, la division sera dans le monde. Et toi, dit-il à Marie, un glaive de douleur te transpercera le cœur. Ne cherchons pas un accord avec le monde, nous ne pouvons pas être en accord avec le monde. Nous vivons dans le monde, nous descendons dans le monde, nous aimons les hommes pour les sauver, mais nous n'aimons pas le mal, nous ne faisons pas de compromissions. Il n'y a pas de compromis possible avec le monde. Le monde, on le change par la grâce, et dès qu'on fait un compromis, on souille la grâce avec le péché ou la tendance au péché. Et donc, Jésus doit partir, il part dans un pays affreux, c'est digne de Las Vegas, l'Égypte. Bon, il y avait une forte colonie juive, donc on peut supposer qu'il sera dans son milieu. Enfin, l'Égypte, hein, ça n'a pas laissé une belle culture, contrairement à la Grèce, qui a laissé une culture splendide, Aristote, Platon, les tragédies. L'Égypte, hein. D'ailleurs, ça avait si peu d'intérêt qu'on n'a même pas cherché à conserver le souvenir de la langue égyptienne qui, dès le IVe siècle, était oubliée. La langue grecque, la belle grande langue grecque, on continue encore aujourd'hui à la connaître. Et puis, le quatrième mystère joyeux, c'est l'annonce de la croix. Notre Seigneur vient dans son temple et il s'offre. Et la Sainte Vierge le rachète, non pas pour le garder pour elle toute seule, elle le rachète parce qu'il sort de la loi juive et il s'offrira désormais pour le monde entier et non pas seulement pour les juifs. Et Bossuet a une très belle remarque. Garde-le bien ton fils, car tu viens de le racheter, mais bientôt un autre le vendra pour 30 deniers. Entrer dans le monde, c'est accepter ces conditions de vie que Dieu le Père à imposer à la Sainte Famille. Dans le cadre d'un sermon, on ne peut pas trop s'étendre, mais voyez Bethléem, voyez même déjà Nazareth, voyez l'obligation faite de quitter sa maison, Nazareth, pour aller à Bethléem, voyez les difficultés du voyage, voyez ce que je vous ai décrit, les premières années de la vie du Christ, Après ça, notre Seigneur part en Égypte, puis il revient quand Hérode est mort. Et là, l'Évangile nous dit qu'il leur était soumis. Il y a Jésus perdu et retrouvé au temple, encore une épreuve pour la Sainte Vierge. C'est après le retour de Jésus dans sa famille quand il avait 12 ans que l'évangéliste nous dit qu'il était soumis à ses parents. C'est pas avant quand il était petit bébé. L'évangéliste ne dit pas qu'il était soumis, puis après ça raconte la quasi-majorité de Jésus à 12 ans. Non, non, il raconte l'épisode des 12 ans et il ajoute après, il leur était soumis. Voilà ce que nous devons être dans le monde. Réfléchissez-y. Dans un sermon, je ne fais que vous donner des pistes, uniquement des pistes. Réfléchissez-y. Vous comprenez que, conçu comme cela, comprise comme cela, notre présence dans le monde n'est pas une présence d'amour du monde, elle est une présence d'amour de Dieu et de pitié pour le monde. De pitié pour le monde qui se damne. Et nous cherchons tous les moyens pour attirer le monde à Dieu. Nous commençons en famille. Mais comme les enfants ne restent pas en famille toute leur vie, eh bien, il faut bien continuer à orienter les enfants vers cet amour de Dieu. Notre-Dame du Christ-Roi, priez pour nous, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.